Bonjour à toi auditrice et bonjour à toi auditeur qui écoute Micro Rebelle. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Gérard Chombard.
Oui, donc on s'était d'abord bonjour, merci de nous recevoir, enfin me recevoir entre autres, mais je représente donc l'association Non à la méthanisation à Bailleul. Nous nous étions rencontrés il y a quelques semaines avec mon épouse Cécile, qui est présidente de l'association.
Présidente de l'association Non à la méthanisation à Bailleul, et vous faites partie du collectif national aussi d'opposition
Absolument, donc moi je fais partie du collectif national Vigilance Méthanisation Canal Historique. Qui regroupe énormément d'associations au niveau national. Hein. Vous savez que la méthanisation se développe à grands pas et les projets ne cessent de s'accumuler et beaucoup de personnes sont dans le désarroi, sont un peu perdues et se retrouvent chez nous au niveau du collectif pour avoir des informations et parfois pour avoir la marche à suivre pour monter des collectifs ou des associations pour se liguer contre toutes ces usines.
Autour de la table, nous avons Kenny.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors Kenny, il est là pour m'aider dans cette interview et il découvre le sujet. Donc il découvrira peut-être en même temps que vous cette question de la méthanisation et surtout des enjeux qui y sont liés, parce qu'on n'est pas du tout au courant de cet aspect de la transition écologique. Je mets des guillemets en disant cela. Mmh. Gérard, peut-être que tu...
En fait, aujourd'hui, le gouvernement, notamment au niveau... Le gouvernement et puis l'Europe en général, notamment l'Allemagne, l'Italie, a plongé précédemment dans cette direction, développe à fond la méthanisation qui fait partie du pack du mix énergétique à mettre en place. Aujourd'hui, on se dit qu'il faut impérativement sortir du nucléaire et remplacer par des énergies renouvelables. Le gros souci actuellement, c'est que les énergies renouvelables ne compensent pas l'augmentation des besoins. Nous sommes de plus en plus consommateurs et malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est un constat, on aura beaucoup de difficultés à se passer du nucléaire. Il faut savoir qu'en Allemagne, notamment, Angela Merkel avait décidé d'arrêter tout ce qui était nucléaire et parti sur du renouvelable. Aujourd'hui, pour compenser l'électricité, il y a toujours les mines de charbon, les mines de charbon qui sont en fonction, et pas qu'un peu. Ces mines devraient fermer d'ici 2038, c'est dans le programme allemand. Il faut savoir aussi c'est que l'Allemagne retournera nécessairement dans le nucléaire. C'est également la même marche pour la France.
Alors dans le mix énergétique, la France est une des championnes du nucléaire. On a vraiment un gros pourcentage de notre énergie qui est nucléaire.
Alors précédemment, effectivement, avant qu'on ferme la centrale en Alsace-Fessenheim, nous étions totalement autonomes au niveau énergie, au niveau électricité. Aujourd'hui, on est en manque, on n'arrive pas à compenser pour les industries. Puisque je vous dis, les besoins augmentent en permanence. Je me souviens l'année dernière, quand on a eu des gelées moins 8, moins 10, il y avait quand même des réserves au niveau des industries, au niveau du particulier, en disant ne consommez pas trop, faites attention à vos consommations, puisqu'on n'aura pas nécessairement la possibilité de fournir l'électricité nécessaire.
Alors, ce dont on parle aujourd'hui, la méthanisation, c'est un procédé chimique qui emmène à la création d'un biogaz.
Oui.
Là, ce n'est pas de l'électricité, mais c'est de l'énergie. Alors, en quoi les entreprises vont utiliser ce biogaz? Comment ça va se passer au niveau de l'achat? Est-ce que c'est déjà prévu les futurs clients qui voudraient acheter ce biogaz? Ce n'est pas prévu pour le public, je veux dire, c'est prévu pour...
Non, pas nécessairement. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, au niveau de la méthanisation, vous avez deux formules. Il y a une formule, la première formule, quand la méthanisation s'est développée, a commencé, vous aviez le système cogénération, c'est-à-dire que vous produisiez donc ce biogaz, qui n'est pas le méthane, je vais le préciser, je tiens à le préciser, c'est dans le biogaz, vous avez 70% de méthane. Le reste, notamment, c'est principalement du dioxyde de carbone, du CO2, le fameux CO2 dont on parle toujours. Donc c'était un système de cogénération. La cogénération, en fait, vous produisiez un gaz pour alimenter un moteur qui fait tourner un groupe électrogène. Et si vous voulez, donc ça produit de l'électricité. Et l'électricité était renvoyée sur les réseaux. Donc ça, c'est la première. Et cogénération, parce que à l'inverse, on récupère aussi la chaleur du moteur que le moteur dégage pour chauffer une piscine, pour chauffer des serres, pour chauffer une porcherie, par exemple. Donc ça, c'est la première forme de méthanisation. Et ensuite, la seconde, qui se développe aujourd'hui de façon, je vais dire, catégorique ou principale, c'est la formule injection. En fait, si vous voulez, vous produisez un biogaz, donc après le méthane, bien sûr, une fois qu'il est épuré, parce qu'il doit être épuré. Et ce méthane est réinjecté dans les réseaux. Ce qui fait que, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de distinction ni industrielle, ni particulière. Je veux dire, la personne qui ouvre son compteur, et puis ben, vous mettez ou du méthane ou du gaz naturel. Il faut savoir quand même que le méthane contient 40% de CO2. Contrairement au gaz naturel, le gaz naturel, lui, il est pratiquement pur.
Et alors, du point de vue de la production, comment ça se passe ?
Alors, la production, c'est ce que je disais, ce que je te disais tout à l'heure. Kenny, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, il y a du gros cuivre principalement, donc il y a le digesteur et le post-digesteur. En fait, il y a une grosse trémie dans laquelle on alimente en mettant des produits végétaux, en mettant des restes de l'industrie agroalimentaire, tous des produits qui sont censés méthaniser, enfin qui méthanisent, pardon. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on cultive, et c'est là la grosse dérive, c'est qu'aujourd'hui, on cultive des terres pour alimenter ces méthaniseurs, puisqu'on n'a pas nécessairement la matière nécessaire pour les alimenter. Donc les agriculteurs ont droit à telle surface, tel pourcentage de tonnage, c'est 15% aujourd'hui, pour alimenter ces méthaniseurs. Mais parallèlement, il y a la culture des jets, et là, il n'y a aucune limite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les sols sont utilisés des fois sur 3 ou 4 cultures, ce qu'on appelle les cultures intermédiaires, donc la CIV, culture intermédiaire à vocation énergétique, pour alimenter, il y a énormément de dérives pour alimenter ces cuves, quoi.
Moi, j'ai une question. En gros, quand on écoute votre premier reportage...
Oui, une première interview qui est diffusée sur le site le 8 juin 2021.
Oui, et ben, vous parlez de déchets, même si pour vous, ce n'est pas des déchets.
Absolument,
donc,
oui.
C'est quoi ce...
Alors, si vous voulez, aujourd'hui, le motif, c'est retraiter les déchets de l'agriculture. Il faut savoir que nos anciens utilisaient le fumier et le lisier pour alimenter en matière organique les sols. Aujourd'hui, c'est devenu, on appelle ça un déchet. Ça n'a jamais été un déchet, puisque depuis la nuit des temps, ça a servi à nourrir les sols. Et les sols nourrissaient la plante. On appelle ça un déchet. Et ça a toujours été un amendement, ça a toujours été un fertilisant pour les sols.
Oui, et effectivement, traiter ça comme des déchets, enfin dire que c'est des déchets, c'est pas considérer ça comme, dans son ensemble, des possibilités de réutilisation, comment dire, on ne prend pas en compte le système dans sa globalité, ils disent déchets parce que ça permet de ensuite faire des productions spéciales pour nourrir le méthaniseur en disant ça c'est ce qui allait être jeté de toute façon, mais en fait ça aurait pu être utilisé également. C'est une façon de voir l'agronomie, en fait l'agriculture, qui est différente.
Et si vous voulez, aujourd'hui cette matière, donc le fumier, le lisier, tout ça, c'est ce qu'on appelle une matière organique qui donne l'humus, hein. L'humus, c'est la partie non minéralisable de la matière organique, hein, qui reste dans le sol notamment. Aujourd'hui, on n'a plus d'humus dans le sol, et l'humus est très très important pour la vie des sols. Aujourd'hui, si vous voulez, on nourrissait le sol de par ses biais pour nourrir la plante. Il y avait une étape intermédiaire qui s'appelle le sol. Le sol, c'est pour moi l'outil le plus important, le produit essentiel de l'agriculture, quoi. Enfin, l'élément essentiel de l'agriculture. Aujourd'hui, bon, ne serait-ce que par les amendements chimiques, on n'a plus besoin du sol. À la limite, le sol est un support. Et si vous voulez, avec ces produits, on alimente directement la plante. Vous pourriez faire pousser du blé ou n'importe quelle plante sur du caillou ou sur du sable. Si on amène de l'eau et les matières nutritives, on n'a plus besoin du sol, quoi, vous comprenez ? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a énormément de cultures hors sol aujourd'hui. C'est de plus en plus fréquent.
Et ça peut conduire à des problèmes futurs quand on voudra réutiliser cette terre.
Alors, il y a effectivement un appauvrissement des sols, et on va embrayer après sur l'IJA et Claude Bourguignon, on y reviendra, mais si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un peu le complexe argilo-humique. Si vous voulez, l'humus et l'argile font un ensemble dans le sol. Si vous voulez, c'est assez compliqué, c'est plus l'agronomie, mais si vous voulez, l'humus et l'argile sont chargés négativement, et vous avez ensuite, par exemple, dans les apports, vous avez du magnésium, vous avez du calcium, qui eux sont chargés positivement. Ce qui fait que ça relie l'humus à l'argile. Et cet humus empêche l'érosion. Si le sol n'est pas chargé en humus, l'argile aura tendance à partir, vous savez, parce qu'on a drainé, il y a quelques décennies, on a drainé à outrance toutes les terres, et dès qu'il pleut, ben, vous voyez dans les fossés, vous avez de l'eau marron, je dirais, c'est chargé d'argile et de terre, parce que l'argile n'est plus retenue et donc part dans le drainage notamment. C'est ce qu'on appelle en partie l'érosion. Après, quand les tracteurs travaillent dans les champs, vous voyez au loin un gros nuage de poussière, mais c'est pareil, plus rien n'est retenu. Donc c'est pareil dans cette poussière, bon, ça a tendance à voler et puis ça part, quoi. C'est ce qu'on appelle l'érosion des sols, parce que les sols ne vivent plus.
Il y a donc une conférence qui s'organise sur la vie des sols et le processus de méthanisation bientôt à Bayonne. Ce sera le 5 novembre à 18h30. C'est dans la salle des fêtes.
Absolument, oui.
Les réservations en ligne sont déjà ouvertes. C'est possible de vous y inscrire. C'est avec un prix d'entrée de 10 euros. 06 20 32 15 53. Ou bien sur helloasso.com. En cherchant aussi nom à la méthanisation à Bayeul sur Facebook, vous trouvez facilement. Donc, la conférence dont on va parler maintenant, c'est une conférence de Lydia et Claude Bourguignon, qui sont ingénieurs agronomes et également fondateurs du laboratoire d'analyse microbiologique des sols.
Oui, c'est cela même, oui, le cabinet LAMS. Donc, Lydia et Claude Bourguignon sont des chercheurs dans l'agronomie, bien sûr. Et ils travaillent à l'INRA et ils ont quitté l'INRA pour créer leur propre laboratoire, hein, donc laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Ce sont des spécialistes du sol. Il faut savoir qu'ils parcourent un peu la planète justement pour travailler sur différents dossiers. Et ce sont vraiment des spécialistes. Et donc on a fait le choix de les amener chez nous pour une conférence. Ils ont eu la gentillesse d'accepter. Ça a un coût, effectivement, mais bon, pour nous, c'était une façon de faire passer le message, vous savez. On n'est pas contre, enfin, si, on est contre la méthanisation, mais pas les yeux fermés. On essaie de partager nos connaissances et de faire comprendre aux gens que les sols, c'est hyper important, quoi. C'est la base de tout. Je pense que Lydia et Claude Bourguignon sont à même de faire cette démarche. Il faut savoir que c'est un terrain neutre. On ne leur demande pas de se positionner en fonction de ce qu'on pense ou de ce qu'on défend. Ils se positionneront en fonction de leurs connaissances et de leur savoir, évidemment.
Oui, c'est rare d'avoir l'occasion de pouvoir poser des questions à des spécialistes comme ça, de la question des sols. Ça donne envie de venir, hein, franchement, comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, en fait. Hein, parce que quand on n'est pas chimiste, biologiste ou agriculteur, on entend parler de ces enjeux-là sans les comprendre avec distance. Et c'est un gros travail qui est fait du coup par l'association non à la méthanisation à Bayeul. Et est-ce que toi, Kenny, tu avais déjà entendu parler de la méthanisation?
Pas du tout.
Pas du tout. Mmh. Et de l'appauvrissement des sols?
Non plus.
Qu'est-ce que ça t'évoque?
Qu'est-ce que ça m'évoque? C'est-à-dire?
Appauvrissement des sols.
Ce que je comprends, moi?
Ouais.
La terre de plus en plus se dégrade.
Absolument, absolument. Et je pense que. Mais ça date d'une période, je dirais, presque après-guerre. Il faut savoir que ça fait des siècles, enfin des décennies, et voire des siècles, évidemment, où on fait du labour. Le labour, c'est une controverse de l'agriculture, dans le sens où, vous savez, la vie du sol qui se développe dans les 10 ou 15 premiers centimètres du sol, parce qu'il y a l'oxygène. Ces plantes, ces acariens, ces champignons, et toute la vie du sol, les micro-organismes ne peuvent pas vivre sans oxygène. Or, quand vous labourez le sol, vous retournez vous retournez le haut de la Terre. Vous savez, cette partie qui est oxygénée, vous la remettez en dessous. Ce qui fait que tout ce qui est micro-organismes existants, champignons et tout ça, ça disparaît et ça meurt puisque ce n'est plus oxygéné. Donc il y a en permanence un renouvellement qui doit se refaire. Donc vous voyez, il y a déjà une carence à ce niveau-là. Et ensuite, ce qu'on met, je vais vous dire, de l'épandage de fumier, puisqu'on le fait encore, Dieu merci, quand vous labourez, vous le mettez au fond du labour. Ce qui fait que ça a besoin d'air, quoi. Ça a besoin d'air. Et donc, ça ne sera pas décomposé. Alors, on fait un amendement et on l'enfouit. Pour moi, c'est une aberrance, quoi. Mais ça, les agriculteurs commencent à s'en rendre compte. Et il y a de plus en plus... Il y en a de plus en plus d'entre eux qui aujourd'hui remuent le sol en surface et l'air et font leur culture. Et on change les méthodes de culture quand même.
Et il y a une chose avec le procédé de méthanisation, si j'ai bien compris lors de l'ancienne interview, d'ailleurs que vous pouvez réécouter sur le site de Micro Rebelle en cherchant non à la méthanisation à Bailleul et ailleurs, 8 juin 2021, c'est que lors de... dans ce méthaniseur qui aurait abattu, oui. Il y a la production d'un pesticide
oui.
Qui sera ensuite...
Absolument, oui. Donc le produit final, puisqu'on n'a pas terminé sur les méthaniseurs, le produit final qui sort, c'est une forme de... Parce que les déchets que vous mettez sont donc travaillent dans une grande cuve, hein, des cuves de plusieurs milliers de mètres cubes, et dans un espace... Anaérobie, ça veut dire sans oxygène. Et donc, le gaz se produit comme ça. Mais c'est en milieu fermé, donc sans oxygène. Et après, vous tirez le biogaz de ces cuves sur le haut. Il y a un dôme avec une bâche et vous tirez le... Donc, il y a un digesteur, un poste digesteur. Et à la sortie du poste digesteur, vous récupérez donc cette forme de purin liquide. Il y a aussi de la forme solide par séparation. Vous le récupérez, il faut savoir qu'un méthaniseur moyen fait 70-80 tonnes de matière par jour. Hein, en gros, 25-30 000 tonnes par an. C'est énorme. Et cette matière est donc stockée dans des cuves qui peuvent atteindre 10 000 mètres cubes. C'est énorme, 10 000 mètres cubes. Et il arrive que parfois il y ait des débordements ou des accidents et qu'il y a des épandages de digestat qui se retrouvent dans la nature, dans les cours d'eau, dans les rivières. C'est arrivé plusieurs fois. Donc ce produit est chargé en ammoniac. Ce digestat est chargé en ammoniac. Il est appelé à être répandu sur les terres à raison de 30 ou 40 tonnes l'hectare. C'est chargé d'ammoniac. Et il faut savoir que l'ammoniac, c'est très très volatile. C'est une partie du digestat qui s'évapore facilement. Donc les cuves de stockage doivent être couvertes. Quand c'est épandu, ça doit être enterré systématiquement au moment de l'épandage, puisqu'il y a énormément d'évaporation. Et de plus, ça devrait profiter à la plante tout de suite, puisque comme c'est un azote ammoniacal, cet azote ammoniacal doit profiter à la plante. Vous ne pouvez pas mettre du digestat aujourd'hui et puis planter dans 3 mois, quoi, parce qu'il n'y aura aucune unité. Donc, ça va s'évaporer. Si ce n'est pas absorbé par la plante, ce sera lessivé, c'est-à-dire que sur des grosses pluies ou des pluies d'orage, ça partira ou dans le sol, ou ça restera en surface et puis ça coulera avec les eaux d'écoulement. Si ça rentre dans le sol, ça partira avec les drainages, ça se retrouvera dans les fossés, dans les becs, ensuite dans les rivières. Ce qui fait que vous avez une pollution permanente, comme du lisier de cochon. Vous avez le cas en Bretagne fréquemment. En Bretagne, vous avez un accident en gros par semaine. Il y a 50 accidents de pollution des cours d'eau par an. Donc ça vous fait une moyenne d'environ un accident par semaine.
Du coup, si j'ai bien compris, le méthaniseur sert à faire du gaz.
Absolument, oui.
Et quel est le mieux pour la nature, on va dire le plus naturel pour la nature, entre le gaz du méthaniseur et le gaz de maintenant?
Ben, le gaz naturel, je dirais, il est moins chargé en dioxyde de carbone, quoi, en CO2. La solution, ben oui, il faut sortir du fossile, mais on n'a pas d'autre énergie aujourd'hui pour... Et c'est ce que j'explique aussi, ce qu'on produit aujourd'hui, on n'est pas capable. Aujourd'hui, les consommations sont de plus en plus importantes. Ce qui fait que toutes ces énergies qu'on appelle renouvelables sont des énergies qui viennent compenser l'augmentation des besoins. On n'arrivera jamais à compenser avec une énergie. Pareil pour l'éolien ou le photovoltaïque. Ce ne sont pas des énergies stables. Alors effectivement, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ouais. Et je pense que je ne suis pas nécessairement pour, mais je suis objectif. Et je pense que nécessairement, on reviendra systématiquement au nucléaire. Puisqu'aujourd'hui, à part les déchets qui sont enterrés, c'est une catastrophe, et je ne reviens pas là-dessus. Mais il semblerait que le nucléaire, ce n'est pas nécessairement l'énergie la plus polluante.
Alors justement, j'allais demander si l'objectif de votre association était d'informer sur la méthanisation, ou si vous donniez d'autres missions de type lutter contre ou pour une autre manière de consommer, la décroissance, la croissance sobre, la sobriété énergétique. Est-ce que c'est des choses dont... Comment vous vous organisez au niveau de l'association et est-ce que vous avez ce type d'objectif?
Ben, si vous voulez, au niveau de l'association, on a commencé avec la méthanisation et puis c'est vrai qu'on a... Ben, la principale... Pour moi, la principale... Notre cause... C'est de défendre le sol, défendre la biodiversité, indépendamment. Bon, on est contre la méthanisation, mais il y a tout ce qui en découle. Et automatiquement, vous allez, on va militer pour d'autres causes. Enfin, d'autres causes liées, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a cherché à faire, on a essayé quand même de grouper pas mal d'associations. Si vous voulez, on travaille pour plusieurs... sur plusieurs projets néfastes. Je vais prendre le cas de Tropicalia à Rendufilier, vous devez connaître probablement. Demain, il y a une manifestation sur les élevages de saumon à Boulogne, non, Salmon. On travaille beaucoup avec la Confédération Paysanne, qui, elle, essaye de protéger la paysannerie. On travaille aussi contre les poulaillers XXL, notamment sur la Croix du Bac, sur Pigam, sur Norpen. Vous avez aujourd'hui plein de projets comme ça, néfastes, qui se développent dans les Hauts-de-France. Donc on est amené à militer pour d'autres causes, évidemment, puisque les autres viennent aussi militer contre la méthanisation. Puis je pense que tout est lié, quoi. Je pense que tous ensemble... Comme dit Cécile, ensemble plus fort. Je pense que tout est là. Sinon, seul dans son coin, on n'avance pas.
Alors, sur, par exemple, la question du nucléaire, est-ce que vous avez un débat au sein de l'association? Est-ce que vous êtes partagé? Est-ce que vous êtes...
Là, je n'engage que mes idées, quoi, mes pensées. Si vous voulez, je parle comme ça, je parle objectivement. On ne peut pas dire non au nucléaire et puis ne rien avoir à côté. Mais je m'en compte. Aujourd'hui, il y a des choix à faire. L'Allemagne devra faire des choix, notamment sur ses mines de charbon. Vous avez des mines énormes à ciel ouvert, c'est un truc de fou. Et bon, ils sont sortis nucléaires. Il semblerait que le bilan énergétique et le bilan, entre guillemets, écologique, ne soit pas merveilleux en Allemagne. Il semblerait que, notamment, Angela Merkel s'est complètement plantée, quoi. La critique est facile, hein. Mais c'est un constat. Et je pense qu'en France, en partant dans la méthanisation, on va se planter. Par contre, j'amènerai une petite précision, c'est que les lignes bougent. On en est tous conscients. Aujourd'hui, la méthanisation est de plus en plus reliée et beaucoup plus reprise dans les médias. Il y a beaucoup plus de débats, il y a beaucoup plus d'émissions et on se rend compte que ça devient porteur. On commence à prendre conscience que c'est un gros problème. Bon, aujourd'hui, je vous dis, s'il y a 1000 ou 1200 usines en France, et qu'on est amené à passer à plus de 10 000, je ne sais pas comment ça finira. Je pense qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout du projet, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Déjà parce qu'on n'a pas la biomasse et toute la matière qu'il faut pour faire face à ça. Et ensuite, c'est pareil, il faut aussi les surfaces. Il faut les surfaces pour épandre ce digestat dont on a parlé tout à l'heure. Il faut savoir que pour une usine de méthanisation qui prend 70-80 tonnes jour, il vous faut à peu près 1000 hectares. 1000 hectares, c'est 10 km². Donc, déjà même au niveau des agriculteurs, ce n'est pas évident parce qu'ils sont obligés de travailler sur 8, 10 et des fois 40 communes pour pouvoir épandre ce digestat parce que tous les agriculteurs n'en veulent pas. Et si vous n'avez pas la possibilité d'épandre à côté de chez vous, malheureusement, vous allez épandre 2 tonnes de digestat ou 10 tonnes de digestat à 40 km de chez vous. Et les gens qui ont un méthaniseur à 40 km viendront, eux, épandre chez nous. Et on le constate déjà aujourd'hui dans les plans d'épandage de digestat. On se rend compte que les communes se croisent. S'il y a le projet sur Bailleul, ben, ils iront faire les 7 communes à côté. Mais les communes qui sont à Saint-Omer, ça se peut très bien qu'elles aient 5 hectares de surface d'épandage à Bailleul. Donc il y aura après une guerre. Il y aura non seulement une guerre des intrants parce qu'on n'aura pas la matière, et ensuite il y aura aussi une guerre pour pouvoir épandre le digestat.
Là, actuellement, c'est des acteurs privés qui investissent avec peut-être de l'aide de l'État.
Oui, ils ont pas mal de subventions quand même au niveau de l'ADEME. Bon, déjà, je vous dis, le GRDF rachète le méthane 4 à 5 fois plus cher que le gaz fossile, hein, tout ce qui vient de Russie ou de Scandinavie. Le fait que ça grimpe autant, je pense qu'il y a peut-être aussi une répercussion de tous ces projets de méthanisation qui se mettent en place, parce qu'il faut financer, l'argent, il faut le trouver. Et il faut savoir qu'une unité de méthanisation moyenne, c'est 5, 6, 7 millions d'euros. Donc ils peuvent des fois avoir 20% d'aide, et après GRDF rachète ça à prix d'or. Ce qui fait que tous les agriculteurs partent là-dedans, dès qu'ils le peuvent, ils le font, quoi. Mais ils changent complètement de métier. Et pour revenir sur la paysannerie, notamment, si vous voulez, ça amène aussi une surévaluation des terres au niveau des reprises. En Allemagne, vous avez un hectare de terre qui est repris parfois 80 000 euros l'hectare. À la frontière, ici, il paraît que ça passe à 40 ou 50 000 euros avec la Belgique. Mais la méthanisation fera automatiquement monter les cours. Et le maïs qui est peut-être acheté, qui a une valeur de 1 200 euros par exemple à l'hectare, aujourd'hui vous êtes à 2 000 et puis demain ce sera peut-être 2 500, quoi. Ce qui fait que les gens qui ont besoin de maïs pour nourrir leurs bêtes paieront beaucoup plus cher la matière première. Et le maïs partira dans les méthaniseurs et on fera venir du soja, des produits du Brésil pour alimenter le bétail. C'est là où il y a une incohérence, quoi. Mais ce produit, évidemment, vous le paierez beaucoup plus cher. Donc le revenu de l'agriculteur, si la viande ou les bovins, ça ne suit pas en proportion, le revenu baissera davantage, quoi.
Donc, dans ce contexte de hausse de l'énergie, la méthanisation n'est pas du tout un espoir, une solution pour avoir de l'énergie moins chère.
Non. Le fait d'avoir moins cher, non. De toute façon, je ne sais pas si vous avez suivi. Mais ce n'est pas que la méthanisation. Et la méthanisation, je pense qu'elle entre quand même dans le processus. Mais le gaz a été facturé 60% plus cher depuis le début de l'année. Et ça devient un gros problème. Donc oui, il y a les Russes, effectivement, on ferme les robinets, il y a plus de demandes, après Covid, probablement, j'en sais rien. Mais on est de plus en plus consommateurs, donc étant donné qu'il y a plus de demandes, l'offre augmente. Enfin, l'offre augmente au niveau du tarif, quoi. Voilà, c'est ça, les prix de l'offre.
Effectivement, c'est aussi pour ça que je suis contente de vous recevoir à Micro-Rebelle, c'est parce que dans ces questionnements qu'on peut avoir sur les alternatives en termes d'énergie ou bien aussi sur ce contexte de hausse des prix du gaz, etc., on pourrait penser que la méthanisation soit une solution d'indépendance, de souveraineté énergétique. Et en fait, a priori, c'est surtout la marche qu'ils ont choisi de prendre, la stratégie qu'ils utilisent pour mettre en place, qui fait que non, pas du tout, ça ne permettra pas une meilleure souveraineté énergétique.
Ah non, pas du tout. C'est ce qu'ils espèrent, mais ils ne sont pas conscients qu'en fait, il faudra énormément de surface pour alimenter, puisque je crois qu'on consomme, en gros, dans l'énergie globale, le gaz va représenter 14, 15 ou 16%, si je ne dis pas de bêtises. Et pour compenser ça, il va falloir 10 000, 15 000, 20 000 méthaniseurs. Je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il y a un gros projet qui se met en place sur le centre France, un projet de 200 000 tonnes par an, c'est énorme, qui ne sera alimenté qu'en végétal. Donc ça veut dire qu'on ne cultivera que pour ça. C'est là où notre combat, c'est la défense des terres, quoi. Il y a un problème. Vous avez de l'autre côté de la planète des gens qui crèvent de faim, excusez-moi l'expression, et à côté de ça, on va faire du carburant, quoi. Il y a un truc qui ne va pas.
Ça ne peut pas aller. Le soja, le maïs pour nourrir les méthaniseurs ici.
Mais je pense que, et notamment en Allemagne, je vous l'ai peut-être dit précédemment, mais d'ici 2035, ça risque de disparaître à grands pas, puisque ça n'a pas été la bonne démarche. Et comme je l'ai déjà précisé précédemment également, c'est que on a un exemple concret en Allemagne, puis qui sont les précurseurs, je dirais. Et on n'est pas capable d'en tirer les leçons, quoi. Eux commencent à faire marche arrière et nous, on développe ça à fond. Il y a un décalage énorme, mais ça ne va pas. Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, je le dis franchement, c'est qu'au niveau des politiques, on part n'importe où. On part n'importe où, puisque les gens qui prennent les décisions ne sont pas nécessairement des gens, et nécessairement, je dirais, systématiquement, sont des gens qui n'ont aucune connaissance dans le domaine. Ça me désole.
D'après vous, alors pour expliquer les raisons de tout ça, c'est qu'ils se laissent donner leurs conseils par des experts qui, eux, ont un intérêt particulier.
On en a discuté précédemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est que c'était les lobbies qui dirigeaient tout, quoi. Les politiques ne font que suivre. Donc, sinon, il n'y a aucune autre explication.
Alors, c'est quel type de lobby derrière la méthanisation ?
Dans le cas précis, je dirais GRDF, vous avez Enedis, parce qu'il y a aussi le phénomène de l'électricité. Je pense qu'il y a aussi des capitaux, des entreprises étrangères, notamment danoises. Vous avez le projet de Corcoé sur l'Ogne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un projet à l'origine qui était de 680 000 tonnes. 680 000 tonnes par an. Ça fait entre 1800 et 2000 tonnes par jour. C'est l'équivalence de 150 camions qui vont traverser les villages avoisinants. Vous avez quand même une entreprise danoise qui, je pense ne pas dire de bêtises, qui représente 40% du capital. Et vous avez de plus en plus d'entreprises étrangères qui mettent le nez dedans et qui capitalisent sur la méta. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même des usines de méthanisation, je dis toujours usines parce que moi je considère que c'est industriel, il y a quand même des usines qui déposent les bilans, il y en a une qui vient de déposer le bilan, qui a 65 millions de créances et de dettes, donc ce sera racheté certainement par un groupe étranger ou pas GRDF, mais de Total se lance là-dedans aussi. Donc vous aurez plein de lobbies comme ça qui vont récupérer. On le saura dans 5 ou 10 ans, mais je pense qu'ils savent où ils vont.
Et est-ce que, alors, pour revenir au cas de Bailleul, est-ce que vous avez eu plus d'informations de la part de la municipalité? Parce qu'en tant que collectif structuré, vous avez fait des demandes auprès de la mairie d'être au courant.
Absolument. Alors, ça a été voté en mairie au niveau du conseil municipal il n'y a pas très longtemps, je ne me souviens pas de la date. La mairie se positionnait contre le projet, mais pas contre la méthanisation. Nous, on n'a jamais parlé de l'emplacement, puisqu'on nous aurait dit, c'est du NINBI, vous défendez... de ça au bout du jardin, quoi. Enfin bref. Et donc la mairie, elle, s'est positionnée, mais contre l'emplacement, puisqu'on est près du site du Mont des Flandres. Hein, on est à 400 ou 500 mètres des sites de Mont des Flandres. Et puis le fait aussi que ce soit une partie où vous avez un véloroute. Il y a un GR qui passe aussi pas loin. Et c'est très... Vous êtes dans un secteur quand même très, très touristique et où il y a énormément de promeneurs, quoi.
Avec cette question de l'ammoniac qui est très diffus, enfin qui est très volatile, c'est dangereux pour les... après épandage, c'est dangereux pour les touristes ou les passants qui passeraient?
C'est dangereux, vous avez... Oui, c'est sûr, c'est toujours dangereux, une nocivité comme ça, c'est... Mais si vous voulez, c'est tellement dilué dans l'air. Non, le plus gros problème, je pense que c'est au niveau de l'atmosphère. Je l'ai expliqué, il me semble. L'ammoniac, en se libérant dans l'atmosphère, se mélange à l'oxygène, donc c'est un azote ammoniacal, et forme le protoxyde d'azote, puisqu'on parle toujours du méthane, mais en tant que gaz à effet de serre, c'est un pouvoir réchauffant global de 298 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, que le CO2. Et le méthane, lui, c'est 29 ou 30 fois plus puissant que le CO2.
D'accord. Peut-être pour en revenir à la conférence de Lydia et Claude Bourguignon. Donc, de quoi vont-ils nous parler exactement ?
Ils vont parler surtout des sols, puisque c'est leur spécialité, bien sûr. Mais parallèlement, ils vont aussi parler des conséquences, mais tout à fait neutres. Il n'y a pas eu de consultation, ils diront ce qu'ils en pensent. Et c'est le côté intéressant, quoi. C'est d'avoir un avis extérieur, puisque nous, on est des anti-méthanisation, évidemment. Mais d'avoir un œil avec objectivité, je pense, qui diront ce qu'ils ont à dire. Mais je pense qu'ils expliqueront surtout ce que c'est que la vie des sols. Et je pense que pour chacune et chacun d'entre nous, c'est important de le savoir, parce qu'on n'en prend pas nécessairement conscience. On voit toujours ce qui est à l'extérieur, mais cette vie dans le sol, qui est la base de tout, qui est aussi la base de la biodiversité, puisque tout vient de là. Bien sûr qu'il y a la nourriture de l'humain, mais il y a la nourriture de tout ce qui est faune et flore. Donc c'est important, oui.
Bon, c'est un truc personnel, mais voilà, l'ancien jardin de ma grand-mère qui a été revendu, enfin la maison et le jardin ont été vendus. Les nouveaux propriétaires qui sont des entrepreneurs et banquiers, entrepreneurs immobiliers et banquières, ils ont coulé une dalle de béton. Tous ces beaux jardins qui avaient été pendant des années le lieu d'un potager, le lieu d'arbres fruitiers, hein, qui avaient été planté quand je suis née, enfin, et là, une dalle de béton, nous, on ne veut pas s'occuper du jardin, et voilà.
Vous savez que là, je pense que dans les décennies, et même très rapidement, il y aura des problèmes d'alimentation en eau. Les nappes phréatiques ne se régénèrent pas nécessairement correctement ou suffisamment. Il y a le problème des drainages, déjà, dont on a parlé tout à l'heure, puisque dans le temps, vous aviez quand même ce qu'on appelle des bases dans les champs et tout ça. Comme ce n'était pas drainé, vous aviez des flaques d'eau, effectivement, c'était ennuyeux pour la culture. Et d'un autre côté, ces flaques d'eau, vous voyez, dans le creux des champs, il y avait toujours... Donc ces flaques d'eau dans les pâtures, puisqu'on avait beaucoup de pâtures, notamment, et des mares, ces flaques d'eau s'infiltraient dans le sol un peu à la fois, quoi. Ça régénérait, il fallait longtemps, mais ça régénérait les nappes phréatiques, parce que généralement ça se présente à 60, 100 mètres, 120 mètres, 130 mètres, 140 mètres. C'est très très profond, la nappe phréatique n'est pas généralement pas en surface. Et donc vous aviez une régénération qui se faisait de façon naturelle. Aujourd'hui on n'a plus cette eau qui s'infiltre, puisqu'elle est évacuée par les drainages, dans les fossés, et puis ça part, ça finit à la mer, hein, par tous les chemins qu'on connaît. Je pense qu'on aura une grosse déficience en eau. Et le fait que les sols ne soient pas vivants, vous voyez, je prends le cas on va parler du micro-organisme ou des vers de terre. Les vers de terre sont très importants dans le sol. Et aujourd'hui, la densité de vers de terre, je ne sais pas si ça atteint 200 kg à l'hectare. C'était peut-être 2 tonnes, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça devait être 2 tonnes ou beaucoup plus, c'était 10 fois plus. Auparavant. Et donc, un peu à la fois, on tue les sols et il n'y a plus de vie. Et cette vie, ça fait partie d'un ensemble, quoi. Et donc, on s'en éloigne de plus en plus. Et on aura des carences en eau.
C'est quelque chose qui est nécessaire aussi pour les oiseaux.
Absolument, oui.
Ça paraît anodin, mais en fait, et on n'y pense pas, mais c'est pourtant essentiel pour la vie de l'agronomie.
Oui, donc je voudrais peut-être faire un petit rappel pour mes amis de la Confédération Paysanne, hein, qui ont lutté contre cette méthanisation en 2018 dans l'Orne. Ils sont intervenus chez un agriculteur qui traite la méthanisation, qui a repris des terres destinées à ça. L'agriculteur les a traînés en justice et le procès, enfin le tribunal, a légitimé l'action de la Confédération Paysanne. C'est une grande victoire pour eux et pour nous.
Qu'est-ce que c'était leur action ?
Pardon ?
Qu'est-ce que c'était leur action dans ce champ ?
Alors l'action, c'était investir le terrain, rentrer sur le terrain et bloquer l'exploitation, quoi. Donc le propriétaire a porté plainte au tribunal. Ça a été jugé dernièrement et le tribunal a légitimé l'action de la Confédération Paysanne en disant que effectivement les terres nourricières étaient employées pour qu'il y avait un débordement, il y avait une dérive énorme de l'exploitation des terres. Je précise aussi que Cache Investigation, en date du 11 novembre, va faire une émission qui s'appellera « Les déchets quand nos poubelles débordent » avec Élise Lucet, et parlera également de la méthanisation lors de cette émission.
Pour explorer encore le sujet, en plus de la conférence.
Absolument.
Qui aura lieu le...
Le 5 novembre.
Le 5 novembre à 18h30.
Ok, merci bien.
Eh bien, merci beaucoup Gérard. Merci Kenny. C'est la fin de notre émission.
Allez, bonne soirée à vous.
Sur Micro Rebelle.
Bonne soirée à vous deux. Merci bien à vous.
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de...
Non, ben, je voudrais simplement vous remercier encore une fois de m'avoir reçu pour pouvoir discuter de tout ça. Et je suis content d'avoir fait la connaissance de Kenny.
Merci beaucoup.
Ben, il n'y a pas de souci. Merci à vous. À vous deux.
Merci.
Merci Kenny.
Merci.
Est-ce que tu as une dernière question ?
Non.
La méthanisation n'a plus de secret pour toi ?
Oui.
C'est merveilleux.
Eh bien, merci beaucoup Gérard. On remercie également Cécile qui fait le lien et qui ne peut pas être présente aujourd'hui.
Oui.
Et bravo à toutes les personnes qui luttent.
Désolé.
contre la méthanisation et pour la vie.
Merci à vous.